Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Dans ce nouvel épisode de Droit Devant, on parle du statut du cadre dirigeant, des critères pour définir un cadre dirigeant, de la durée du travail qui leur est applicable et aussi de la rémunération qu'ils vont percevoir. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un cadre dirigeant ? Un cadre dirigeant, c'est une catégorie qui est bien plus étroite que la catégorie des cadres classiques, des cadres supérieurs. Cette classification de cadre dirigeant, elle est limitée en réalité à un très petit nombre de personnes qui constituent vraiment le premier cercle de pouvoir autour du chef d'entreprise. Donc ça signifie concrètement que tous les cadres qui sont placés à la tête d'un service ne vont pas pouvoir être considérés comme des cadres dirigeants. Selon l'INSEE, en France, il y a plus de 65 000 cadres dirigeants et à peu près 25%, donc un quart de ces cadres dirigeants, sont des femmes, ce qui est une proportion assez faible finalement. Cette classification, elle va vraiment être réservée aux cadres qui disposent d'un pouvoir décisionnaire, que ce soit en matière de politique économique, sociale et financière. Et d'ailleurs, le Code du travail dégage trois conditions, trois critères cumulatifs, c'est-à-dire qui s'ajoutent les uns aux autres, qui vont devoir être remplis pour pouvoir qualifier un salarié de cadre dirigeant. Le cadre dirigeant, pour être considéré comme tel, il doit bénéficier d'une très grande indépendance dans l'organisation de son travail, ça c'est la première condition. Il doit aussi être en mesure de prendre des décisions de façon largement autonome. Et enfin, dernier critère posé par la loi, il doit percevoir l'une des rémunérations, enfin une rémunération qui fait partie des rémunérations qui sont les plus élevées au sein de l'entreprise. Alors, pour illustrer ce propos, selon une étude de l'INSEE, eh bien la rémunération d'un cadre dirigeant en France, elle se situe à plus de 110 000 euros nets par an sur l'équivalent d'un temps plein. Donc c'est une rémunération qui est haute, qui implique de grandes responsabilités et une amplitude de travail très importante. Il a été rappelé à plusieurs reprises par la Chambre sociale de la Cour de cassation que ces trois critères que l'on a cités, c'est-à-dire le fait que le cadre dirigeant perçoive une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, qu'il prenne des décisions de façon autonome, qu'il organise sa charge de travail et son emploi du temps de façon indépendante, tous ces critères-là sont cumulatifs, c'est-à-dire que si un seul d'entre eux fait défaut, la notion, la classification de cadre dirigeant ne peut pas être donnée aux salariés. Et puis, la jurisprudence a également posé un critère supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle exige également que les cadres dirigeants participent aux décisions stratégiques de l'entreprise. Par exemple, en avril 2022, dans un arrêt du 13 avril 2022, elle est venue confirmer une nouvelle fois donc que les critères étaient cumulatifs et aussi elle a jugé concernant un salarié qui effectivement bénéficiait d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, qui avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, mais qui ne participait pas aux prises de décisions stratégiques de l'entreprise, eh bien la Chambre sociale a considéré qu'il ne pouvait pas être qualifié de cadre dirigeant. Donc en fait, la Cour de cassation a fait apparaître un quatrième critère qui est la nécessaire participation du salarié à la direction de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce que les contentieux sur le statut de cadre dirigeant se multiplient ? Eh bien en fait, il faut savoir que l'un des inconvénients majeurs de ce statut de cadre dirigeant, c'est toujours la problématique de la balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié cadre dirigeant. Parce que le cadre dirigeant n'est pas soumis au régime protecteur de la durée du travail. Donc il va pouvoir être amené à travailler très tard le soir, le week-end et avoir une charge de travail extrêmement importante. Et quand on regarde les études sur les heures de travail des cadres, on se rend compte qu'on a des cadres dirigeants qui travaillent environ 62 heures par semaine. C'est une étude qui a été rendue par Cadreo et qui relève que lorsqu'on chiffre les heures de travail des cadres, on a une partie de ces cadres qui travaillent selon une moyenne de 62 heures de travail par semaine, mais qui pour autant dérogent aux dispositions du Code du travail et donc ne vont pas bénéficier d'un contrôle de leur charge de travail ni d'un paiement d'heures supplémentaires dont ils ne relèvent pas. Donc tout l'enjeu est là dans les contentieux prud'homaux, c'est de savoir est-ce que les conditions sont remplies pour bénéficier du statut de cadre dirigeant, auquel cas l'employeur n'a pas à contrôler la charge de travail du cadre dirigeant et n'a pas à lui payer d'heures supplémentaires, ou est-ce qu'à l'inverse, une des conditions fait défaut, et auquel cas le salarié, cadre dirigeant, si l'une des conditions fait défaut, est à ce moment-là fondé à demander l'application des règles de droit du travail en matière de durée du travail, ce qui signifie qu'à ce moment-là, il relève du régime des heures supplémentaires et qu'il peut demander un paiement rétroactif de ces heures supplémentaires qui vont, comme les rémunérations sont élevées concernant cette catégorie de salariés, eh bien à ce moment-là, qui vont atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros de rappel de salaire. Donc, la tendance qu'on voit se développer dans les contentieux, c'est une utilisation de plus en plus large de cette catégorie de cadres dirigeants par les entreprises, qui peuvent ainsi s'affranchir du régime de la durée du travail selon le droit du travail classique, et une tendance pour les salariés à contester ce statut lorsqu'une des conditions que je vous ai citées tout à l'heure fait défaut, et à demander des rappels de salaire sur le fondement des heures supplémentaires. Avec, comme on l'avait déjà évoqué une fois précédente dans ce podcast sur les forfaits jours, eh bien une prescription triennale, c'est-à-dire la possibilité de remonter sur les 3 dernières années pour demander des rappels d'heures supplémentaires. Alors, dans un dossier que l'on a traité il y a quelque temps au cabinet, et dans le cadre d'un contentieux, le salarié que l'on représentait avait été licencié par la société avec laquelle il collaborait après une 20aine d'années de collaboration, sans aucune difficulté, et même plutôt couronné de succès. Et il se trouve que le salarié s'était vu attribuer la classification de cadre dirigeant. Il était effectivement assez indépendant dans la gestion de son organisation propre, c'est-à-dire de son propre département et puis de son propre planning de travail. Mais néanmoins, les critères du cadre dirigeant n'étaient pas remplis, puisque le salarié était géographiquement très éloigné du centre névralgique où étaient adoptées les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc le siège de la société était situé en Suisse et le salarié que l'on défendait se trouvait de son côté à Paris. Et il se trouve qu'un cabinet de conseil qui avait audité la société avait donc réalisé un audit et que cette société de conseil avait souligné le fait que aucun rôle ne comportant des décisions stratégiques n'était pris depuis la France et qu'en réalité toutes les décisions stratégiques étaient prises en Suisse. Donc ce point-là était souligné dans le cadre d'un rapport d'audit. Et puis, même si le salarié que l'on défendait avait une certaine indépendance, eh bien, il était quand même soumis à une subordination hiérarchique assez forte et devait demander un certain nombre de validations à son N+1, donc à son supérieur hiérarchique direct. Il n'avait pas d'autonomie totale dans la prise de décision stratégique et il ne faisait pas non plus partie des instances dirigeantes, c'est-à-dire notamment du comité de direction. Alors, il se trouve que ce qui nous avait conforté dans notre analyse, puisque nous soutenions qu'en réalité, ce salarié n'était pas valablement soumis au statut de cadre dirigeant et qu'il était légitime à demander un certain nombre d'heures supplémentaires, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ce qui nous a aidé dans notre démonstration, c'était que ce statut de cadre dirigeant avait été très massivement consenti à tout un tas de salariés de l'entreprise par simplification, par souci de simplicité de l'employeur qui en réalité utilisait ce statut de cadre dirigeant et s'affranchissait des règles en vigueur en matière de droit du travail. Donc c'est ce que nous avons fait valoir devant le Conseil de Prud'homme et c'est ce qui nous a permis d'obtenir un certain nombre d'heures supplémentaires, de rappels d'heures supplémentaires. Et sur la même logique, eh bien effectivement, la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises pour rappeler que le fait d'exiger d'un cadre dirigeant que chaque semaine, il communique à son supérieur hiérarchique un planning par exemple prévisionnel de ses interventions, eh bien une telle pratique exclut le statut de cadre dirigeant. De même que d'insérer par exemple dans le contrat de travail d'un salarié une durée de 39 heures de travail par semaine, cette insertion, cette mention est incompatible avec la qualité de cadre dirigeant, là encore, parce que ce cadre, précisément, doit disposer d'une très large autonomie dans l'organisation de son travail et qu'une telle mention s'oppose à cette autonomie. Voilà pour les développements liés à ce statut qui fait l'objet de plus en plus de litiges, des litiges qui sont maintenant assez fréquents devant le Conseil de Prud'homme après le départ du salarié de l'entreprise notamment, et il est fréquent effectivement qu'on assiste à des arbitrages et notamment que ces arbitrages prennent en considération eh bien éventuellement une requalification du contrat de cadre dirigeant et entraînent la condamnation au paiement rétroactif d'heures supplémentaires. J'espère que cet épisode vous a apporté tous les éclairages utiles et je vous dis à très bientôt.